Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 25 mars, comment faire pour que la vague ne devienne pas une déferlante? Dans les Hauts-de-France, les hospitalisations n'ont jamais atteint ce niveau-là. L'Aube, la Nièvre et le Rhône vont devoir vivre avec de nouvelles restrictions. Olivier Véran tiendra une conférence de presse à 18h. Faut-il fermer les écoles? Les lycées s'organisent pour faire venir la moitié des élèves. Mais quels sont vraiment les risques pour les enfants et les adolescents? Nous ferons le point avec la professeure Christelle Le Gouen, présidente de la Société française de pédiatrie. Xavier Bertrand, candidat gaulliste social pour la présidentielle de 2022, mais sa candidature ne convainc pas forcément son camp. Dans RTL Midi aussi, nous essaierons de comprendre pourquoi le prix de l'eau du robinet varie de 1 à 5 en fonction de l'endroit où on habite. Et puis le coup de cœur de nos correspondants sera gourmand et érudit avec une épicerie à Bordeaux qui propose des produits d'un autre temps. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
On cherche un peu le soleil.
Oui, c'est vrai qu'il se fait plus rare aujourd'hui, surtout entre la façade atlantique, le centre jusqu'au nord-est. Alors c'était bien chargé ce matin, petite amélioration cet après-midi au fil des heures avec quelques éclaircies, mais ça restera nuageux avec quelques gouttes sur le Grand Est. Et ça se charge également au nord de la Bretagne et du Cotentin avec de faibles pluies. Le soleil, le beau, parce qu'il y en a quand même, il est surtout dans le sud-est et puis le temps est agréable également entre les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais. Les températures, elles sont généralement comprises entre 12 et 17 degrés, mais jusqu'à 22 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il fermer les écoles? Eh bien, il y a 39% de oui, 51% de non. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Pro.
Bonjour, ce serait évidemment le sujet du jour. 80 établissements sont fermés, 2000 classes, on en parlera tout à l'heure. Dehors en citoyen, mais attention, pas plus de 6. Les rassemblements de plus de 6 personnes, vous le savez, en extérieur, sont interdits sur tout le territoire. On pourra parler du pardon d'Angela Merkel, qui a reconnu avoir fait une erreur en voulant durcir les règles sanitaires. On pourra parler également de ce qu'a dit Emmanuel Macron. Le mea culpa qu'il a fait hier à la télé grecque, on a manqué d'ambition. Et puis si vous voulez parler football et de la déception hier de l'équipe de France, ce sera également possible.
Et faut-il fermer les écoles? On en reparlera dans 10 minutes avec William Galibert du service politique.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer, si vous êtes à table, pardonnez-nous d'avance, mais on va un petit peu vous couper l'appétit. Vous mangez sans le savoir de faux aliments parce qu'ils sont de mauvaise qualité, contaminés, voire carrément contrefaits. L'ONG Foodwatch France, qui défend l'alimentation des citoyens, vient de publier un livre au titre évocateur « Manger du faux pour de vrai ». Quel est le menu, Sophie Jousselin?
Eh bien, du poivre mélangé avec un peu de sable, du miel qui n'a jamais vu une abeille, du vin étiqueté Pomerol qui vient du Languedoc, de la viande de cheval aux antibiotiques, des fruits et des légumes traités aux faux pesticides et pire encore, du thon en boîte, avarié, mais qui a bonne mine. Ingrid Kragl, la directrice de Foodwatch et auteure de ce livre.
Beaucoup de tonnes de thon qui étaient avariées et qui étaient injectées d'additifs dangereux pour avoir de nouveau l'air frais et qui est reparti comme ça, tranquillement, dans la chaîne alimentaire et qui a débouché sur des centaines de malades, et notamment en France. Et c'est une pratique malheureusement courante. Il était tellement avarié que les mains des employés leur piquaient, leur brûlaient. C'était vraiment des produits atroces.
Et le problème, c'est que ces fraudes sont impossibles à détecter pour le consommateur et que ces produits sont partout.
Il est impossible de repérer une tomate qui a poussé sous une serre hollandaise, d'une tomate qui a poussé sous le soleil du sud de la France. Malheureusement, on trouve de la fraude alimentaire dans les supermarchés, au petit marché du coin, dans une épicerie, dans les plats qu'on se fait livrer, au restaurant. Moi, je me suis dit que, au vu de tout ce que j'ai découvert, j'en avais certainement donné à mes enfants, j'en avais certainement consommé sans le savoir.
Foodwatch dénonce le manque de moyens des inspecteurs de la répression des fraudes et lance sur son site une pétition pour demander que le nom des marques qui fraudent soit rendu public. Aujourd'hui, les autorités ne les donnent pas.
Sophie Jousselin, à l'autre bout de la chaîne, beaucoup d'agriculteurs qui font bien leur travail sont coincés entre des prix encore trop bas et la réforme de la politique agricole commune. Entre 2000 et 3000 agriculteurs du Massif central manifestent en ce moment à Clermont-Ferrand. 500 tracteurs convergent vers la place de Jaude. Écoutez Julien, il a 31 ans, il élève des charolaises dans l'Allier. Guillaume Frixon l'a rencontré.
Moi, je vis avec 800 euros par mois, plus le salaire de ma femme. C'est pas encourageant, ça fait peur. Ça fait vraiment peur, quoi. Je veux pas dire que je dors pas les nuits, mais ça travaille quand même le moral, quoi. C'est délicat, c'est difficile. C'est très difficile à vivre. On n'a pas le choix, on fait. Nos bêtes, elles ont besoin de nous tous les jours. On les nourrit tant qu'on peut, du mieux qu'on peut. On essaye de faire des économies partout, tout ce qu'on peut faire, mis à part l'augmentation des charges qu'on a sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est tout le temps dans un sens et jamais dans l'autre. Donc voilà, aujourd'hui, on est là pour demander au gouvernement s'il veut vraiment encore de nous, parce que les beaux discours, ça suffit au bout d'un moment, il y en a marre. Il y a des paroles, mais il n'y a pas d'actes, quoi. Voilà.
Voilà, témoignage de Julien, jeune agriculteur qu'on sent aussi très ému. Comment freiner l'épidémie? Les hospitalisations dans les Hauts-de-France dépassent les niveaux atteints lors des deux premières vagues. D'après l'Agence régionale de santé, 38 patients en réanimation ont dû être évacués vers d'autres régions depuis le début du mois de mars. Les départements de l'Aube, la Nièvre et le Rhône vont sans doute devoir vivre à leur tour avec de nouvelles restrictions. Face à la vitesse de circulation du virus, faut-il fermer les établissements scolaires? Pour l'instant, dans les départements confinés, on pratique la demi-jauge pour les lycéens. Reportage de Marie Gaillet dans un établissement parisien.
Sur la première heure de cours, j'ai 47,3% d'élèves. Sur la deuxième heure, 51,8%. Sur
la proviseure adjointe Madeleine Abrahami a fait tous les calculs pour tenir dans la jauge.
On est toujours sur le fil à chaque heure.
Jusqu'à présent, le lycée fonctionnait en 100% présentiel, mais la proviseure Marianne Dodinet se rend à l'évidence.
Le contexte sanitaire est beaucoup plus aigu que ce qu'il était précédemment. Clairement, il y a une contamination plus importante.
Elle a voulu que les secondes soient le plus possible au lycée, 90% de leurs cours.
On l'a vu l'année dernière, c'est les élèves les moins autonomes. Et puis pour l'année seconde, il y a la question de l'orientation après. Le troisième trimestre est déterminant.
Pour les terminales et les premières,
on a privilégié les épreuves qui vont être évaluées prochainement. On n'arrive pas à la totalité des heures en présentiel, ni en philosophie, ni en français. Les enseignements de spécialité, on est à 100%.
Le reste, ce sera en visio ou du travail en autonomie à la maison. Si la situation sanitaire impose de basculer également les troisième et quatrième de la cité scolaire en mode hybride dans les prochaines semaines,
ce sera compliqué. Les élèves de quatrième et de troisième, dans leur grande majorité, sont incapables de travailler seuls à distance.
Le ministère précise que les collèges qu'ils souhaitent dans les zones particulièrement touchées par l'épidémie peuvent demander à appliquer cette demi-jauge, mais ça n'est pas une obligation pour l'instant.
Marie Guerrier. Alors, quel est le niveau de contamination à l'école? Pour y voir clair, nous sommes avec la professeure Christelle Gras-Le Guen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes aussi la présidente de la Société française de pédiatrie. Les études, pour l'instant, sont assez contradictoires. Les établissements scolaires sont-ils vraiment ou pas en train d'amplifier l'épidémie ?
Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un parallèle évident entre le niveau de circulation du virus dans la population générale et ce qu'on retrouve à l'école. C'est simplement que, effectivement, on reste dans l'idée que les enfants sont beaucoup moins contaminés que les adultes, mais ils le sont quand même. Et s'il y a plus de virus chez l'adulte, eh bien il y en a aussi plus chez l'enfant, mais en moindre quantité. Et donc l'idée, c'est de tenir compte de l'âge comme un élément majeur pour la circulation des virus, et puis d'avoir quand même à l'esprit que ce n'est pas l'endroit où on se contamine en priorité, mais que cet endroit, ça reste quand même le milieu familial ou en tout cas extrascolaire.
Voilà. Donc c'est pas à l'école qu'on se contamine, c'est à l'école qu'on peut potentiellement contaminer un petit peu les autres, mais c'est pas ça le cœur du problème.
Exactement. Le cœur du problème, il n'est pas là. Et le meilleur moyen de se débarrasser de ce virus et de sortir du chaos, c'est bien évidemment d'accélérer la vaccination. Et il ne faut pas qu'on se trompe de cible ni qu'on se trompe de combat.
Mais quand vous dites accélérer la vaccination, est-ce qu'il faudrait aussi vacciner les enfants ?
Alors on n'en est pas là. La priorité, bien évidemment, c'était de vacciner les gens fragiles et puis ceux pour lesquels le virus circule le plus fréquemment. Et donc ça, on sait que c'est, dans l'immense majorité des cas, les majeurs, les plus de 18 ans. Mmh. Et donc il faudra vacciner les enfants fragiles, mais la priorité n'est pas chez eux, puisque encore une fois, dans tous les chiffres depuis des mois qu'on surveille avec Santé publique France, ça reste la population où le virus circule le moins.
Alors, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'âge des élèves, il y a beaucoup d'écoles qui ferment en ce moment. Jusqu'à présent, on disait plutôt que c'était les adolescents qui étaient les plus contagieux. C'est toujours vrai ou pas?
En fait, il y a un continuum dans ce drôle de virus, cette drôle de maladie, où effectivement, il affecte très très peu les nouveau-nés, un peu plus les nourrissons, et puis finalement les adolescents, et puis l'adulte. Et donc, il y a vraiment une règle qui est proportionnelle en fonction de l'âge. Et c'est vrai que c'est chez l'adolescent qu'il y a le plus de circulation virale.
Alors, pourquoi il y a de plus en plus d'écoles qui ferment en ce moment ? On a l'impression que le problème, il est surtout à ce niveau-là.
Alors, il y a beaucoup d'écoles qui ferment parce qu'il y a des enfants ou des enseignants qui sont contaminés, mais pas dans le cadre de l'école. Et donc, oui. On ferme des classes pour éviter les sujets contacts. Mais il n'y a pas de contamination. En tout cas, c'est rare les cas de contamination à l'école.
Bon. Est-ce que les variants du virus changent la donne aussi pour les plus jeunes ?
Bien sûr, puisque ces variants sont plus contagieux pour tout le monde. Donc c'est quelque chose qui est venu complexifier quelque chose qui l'était déjà beaucoup. Hein, et donc il faut qu'on en tienne compte. Ce variant est plus contagieux qu'il infecte un enfant ou un adulte.
Est-ce que vous, vraiment, j'attends une réponse en une phrase, est-ce que vous êtes favorable ou pas à la fermeture des établissements scolaires ?
Alors, on a vu lors du premier confinement tous les effets délétères sur les inégalités sociales, mais aussi la santé mentale des enfants, sur un regain de maltraitance, sur des choses qu'on ne doit pas pouvoir voir de nouveau. Et donc, il faut tout faire. C'était votre reportage précédent pour maintenir au moins partiellement la scolarisation.
Merci beaucoup, merci professeur Christelle Gras-Leguen d'avoir été l'invité de ce journal. Faut-il fermer les écoles ? On y revient justement dans un instant avec Pascal Pro et William Galibert du service politique.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Revenons sur la question du jour qu'on vous pose sur RTL.fr. Faut-il fermer les établissements scolaires ? Vous allez en discuter avec les auditeurs au 3210 dans 20 minutes, Pascal Pro.
On a souvent été dur sur l'exécutif. S'il y a une chose qui a bien marché, c'est les écoles. On n'a pas fermé les écoles. C'est une bonne chose d'abord pour les écoliers, c'est une bonne chose pour les parents. Les conséquences psychologiques, sociales, culturelles, etc. sont extrêmement importantes. Donc il faut aller au bout du bout, jusqu'où on peut aller au maximum. Alors évidemment, la situation sanitaire, elle peut évoluer ces prochains jours, mais je pense que c'est une ligne de fracture, même symbolique, qui est importante.
Bon, il faut tenir cette ligne, vous nous dites, Pascal. Et pourtant, William Galibert, le gouvernement est sous pression parce que c'est quand même une question ultra sensible.
C'est une question ultra sensible, mais sous pression, j'ai envie de vous dire oui et non, Christelle. La pression, elle vient d'où ? Elle vient des syndicats enseignants, elle vient du monde scientifique, elle vient des élus locaux. Ça n'a jamais empêché Emmanuel Macron de dormir, tout ça. On l'a vu la semaine dernière, quand la pression venait aussi sur lui, et qu'au lieu de renfermer tout le monde, il a dit « allez dehors ». Bon, donc ça, déjà, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, c'est vrai que lui et Jean-Michel Blanquer en ont fait une sorte de fierté, une sorte de marque de fabrique dans le confinement à la française. Nous n'avons pas fermé les écoles.
Et là-dessus, c'est une réalité.
Oui, c'est vrai.
Parce que l'Angleterre a fermé, l'Allemagne a fermé, beaucoup de pays ont fermé. C'est une réalité.
Depuis la fin du premier confinement, la France n'a pas refermé ses écoles. On doit en être fier, c'est ce qu'on nous répète. Et puis là-dessus, le président, il joue clairement l'opinion face aux courbes de l'épidémie. Je suis allé faire un petit sondage dans la rédaction ici. On peut aussi le faire au 3210. Et le président, il est persuadé que les parents n'ont absolument aucune envie de récupérer leurs bambins à la maison et que ça doit normalement suffire à peser aussi dans le choix.
C'est vrai que
dans
ça avait été une
grosse crise. C'est la consultation du jour d'ailleurs, puisque en début de journal, vous rappeliez que la question qu'on pose, faut-il fermer les écoles ? Les auditeurs, c'est pas un sondage, bien sûr, c'est une consultation, mais majoritairement, ils disent non.
Jusqu'où peut-il tenir cette position, William ?
C'est là que ça se corse un peu, parce que qu'est-ce qu'on entend du porte-parole du gouvernement, de l'entourage d'Emmanuel Macron aussi ? On nous dit, ça sera le dernier recours, on le fera si vraiment on n'a pas d'autre choix, mais ça se base sur pas grand-chose de concret. On n'a pas un chiffre, une incidence au-delà de laquelle les écoles devraient fermer. Ce qui fait que dans la majorité, on commence à entendre même aussi un petit peu qu'il ne faudrait pas que ce pari, cette griffe française se transforme en obstination ou en déni de réalité. Et puis, dernière difficulté, c'est que tous les instruments sur lesquels comptait Emmanuel Macron pour gagner un peu de temps, notamment auprès des professeurs, ne sont pas là. Les tests à l'hiver, il devait y en avoir par centaines de milliers, ils ne sont pas là. Et les vaccins, il nous a dit cette semaine, on va commencer à vacciner les profs peut-être à partir de la mi-avril. Ça, on peut en douter fortement.
Merci William, merci Pascal. Appelez-nous au 3210 pour qu'on puisse entendre vos arguments après 13h. Les excuses de nos dirigeants sont assez rares. Hier, Angela Merkel a finalement renoncé à reconfiner, reconnaissant une erreur. Elle a même demandé pardon aux Allemands. Et Emmanuel Macron, lui, a fait son mea culpa hier à la télévision grecque sur les ratés de la vaccination de l'Union européenne.
Certains nous disent à juste titre qu'on aurait dû aller plus vite, plus fort. Mais cette Europe des vaccins, de la recherche, de la coordination, elle est bonne. Les Américains ont eu un mérite. Dès l'été 2020, ils ont dit « on met le paquet ». Nous, on n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire « c'est possible et on y va ».
Pas assez de doses, alors que l'Europe exporte des vaccins, notamment vers le Royaume-Uni, qui en produit déjà beaucoup. Et tout à l'heure, lors du Conseil européen, les 27 sont bien décidés à changer de braquet, Bénédicte Tassard.
Alors, 100 millions de doses distribuées par les labos aux 27 pays de l'Union européenne à la fin du premier trimestre, dans quelques jours, mais 300 à 350 millions à la fin du deuxième trimestre. Pour 50%, ce sera du Pfizer-BioNTech, pour le reste, du Moderna, de l'AstraZeneca, et bientôt, des doses du vaccin américain Johnson Johnson. 55 usines européennes vont tourner à plein régime. Encore faut-il trouver les fournisseurs de matières premières, de filtres, de cuves. Bruxelles travaille notamment avec les États-Unis et l'Inde pour garantir la livraison de substances actives. Trouver davantage de vaccins, c'est aussi limiter les exportations du territoire européen vers des nations qui en ont déjà des stocks. Suivez mon regard vers le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore Israël. Le Conseil européen, vous l'avez dit, en débattra largement cet après-midi. Enfin, il faut vacciner plus vite. Le rythme doit être multiplié par 4, avertit la Commission européenne. Ce sera plus compliqué que prévu, car je l'ai dit, il y aura davantage de Pfizer-BioNTech qui se conserve dans du très grand foie, moins d'AstraZeneca. Les vaccinodromes vont devoir s'équiper de davantage de super réfrigérateurs.
Oui, donc problème de logistique à suivre. Merci Bénédicte. Et d'après le dernier comptage du ministère de la Santé, 6 850 000 Français ont été piqués. 2,5 millions ont reçu la seconde dose. Xavier Bertrand a donc déclaré sa candidature à 14 mois de l'élection présidentielle. Il se revendique gaulliste social, même s'il a quitté les Républicains. Et à droite, sa candidature, qui est tout sauf une surprise, fait grincer des dans Marie Mollet.
Oui, car à droite, Xavier Bertrand n'a pas que des amis et certains LR ne se sont pas gênés hier pour railler cette entrée en campagne. Ça fait 17 fois qu'il annonce sa candidature, ricane l'un de ses ennemis. Rien de neuf sous le soleil, on le savait déjà, minimise-t-on à l'état-major du parti. Il n'empêche, cette sortie embarrasse bel et bien ses potentiels rivaux à droite pour la présidentielle qui, eux, ne sont pas encore sortis du bois. Bertrand tente un coup de force, lâche un député qui ne roule pas pour lui. Il veut s'imposer en parlant le premier. « C'est du pousse-toi là que je m'y mette », tacle un proche de Valérie Pécresse qui, à droite, le talonne dans les sondages. D'autant que Xavier Bertrand plombe au passage un peu plus le scénario d'une primaire que certains continuent de réclamer. « Il a déjà le leadership », répond l'un de ses soutiens. Et Xavier Bertrand est un homme pressé, pas question d'attendre la fin de la crise sanitaire qui risquerait de le priver de campagne.
L'écologiste Julien Bayou affirme qu'il n'est ni gaulliste ni social. Même tonalité chez l'insoumis Adrien Quatennens, qu'il accuse de vouloir appliquer les mêmes recettes de droite qu'Emmanuel Macron. Le musée d'Orsay, celui de l'Orangerie, devrait porter aussi le nom de Valérie Giscard d'Estaing. L'Assemblée nationale a approuvé cette résolution ce matin à l'unanimité. Le musée d'Orsay avait été créé en 1977 à l'initiative de l'ancien président. Dans un instant, on va chercher à comprendre pourquoi le prix de l'eau du robinet varie de 1 à 5.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Quel est le vrai prix de l'eau? Le magazine 60 millions de consommateurs révèle qu'il varie de 1 à 5 après avoir étudié les prix dans 130 villes de notre pays. La hausse moyenne est de 10% en 10 ans. Mais pourquoi? Pourquoi de tels écarts, Armel Lévy?
Eh bien, le principe, c'est que l'eau paye l'eau. Ce sont vos factures d'eau qui vont payer à la fois l'acheminement de l'eau chez vous et le traitement des eaux usées. Et c'est cette partie-là, l'assainissement et son renvoi dans l'environnement, qui fait flamber les factures en moyenne de 20% en 10 ans. À Saint-Brieuc, les habitants ont même vu leurs factures bondir de 71% en 10 ans, mais c'est sans doute un mal pour un bien, selon Fanny Guibert de 60 millions de consommateurs.
Quand vous voyez la ville de Saint-Brieuc qui partait avec des réseaux très très vieux qui dataient des années 50, qui est obligée d'investir 30 millions pour une usine de potabilisation de l'eau, c'est énorme comme investissement. En même temps, c'est la solution pour qu'enfin les normes soient respectées et que toutes les populations puissent avoir des eaux de qualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des petites villes qui ne font rien, mais où effectivement les taux, notamment pour la conformité microbiologique, ne sont pas bons.
A l'inverse, les habitants d'Antibes ont vu leur facture chuter de près de 60% en 10 ans. C'est spectaculaire, ils payent 4 fois moins qu'à Saint-Brieuc, là simplement parce que la ville a renégocié son contrat avec un nouvel opérateur.
Armel Lévy, le canal de Suez est bloqué ce matin et ça pourrait durer. La navigation est suspendue jusqu'à la remise à flot de ce porte-conteneur géant de 400 mètres de long. ballon qui s'est échoué hier. Or, son propriétaire japonais affirme que la manœuvre est extrêmement difficile. L'embouteillage s'accumule sur cette route qui représente 10% du trafic maritime mondial.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Partons à Bordeaux, dans une épicerie qui ne ressemble à aucune autre. C'est une épicerie historique qui propose à la vente des produits régionaux fabriqués parfois depuis plusieurs siècles. Alors on fait ses courses dans une sorte de musée gourmand, Denis Grandjou.
Oui, le plus ancien produit de cette épicerie historique étonnante remonte à 1755, une anisette inventée par une bordelaise. Elle s'appelait Marie Brizard.
Marie Brizard, elle existait vraiment. On a d'ailleurs des descendants de la famille Brizard qui viennent ici à la boutique.
Anna Pédebord s'est plongée avec délice dans les archives gourmandes de Bordeaux.
Moi, par exemple, ma grand-mère, elle m'a jamais forcément parlé de la moutarde Louite. Et en fait, maintenant, quand j'en parle, on me dit « Mais oui, c'est vrai, je connaissais. Mais pourquoi tu m'as pas raconté tout ça ?» Parce qu'en fait, ils pensaient que ça n'existait plus.
Alors, les produits sont présentés dans d'imposantes armoires en bois avec, pour chacun, une notice explicative sur leur histoire.
Et nous, on a vraiment à cœur de mettre en valeur tout ça pour que les gens se rendent compte que derrière un produit, il y a vachement de travail, vachement d'amour.
Et puis, bien sûr, à Bordeaux, la boisson star, non, ce n'est pas le vin, c'est le cacolac.
Et souvent, on me demande si ça vient pas de Bretagne ou d'Espagne.
Cacolac, c'est 100% bordelais depuis 1954. Et même si Jean-Pierre Papin et sa marionnette des Guignols se désolidarisent...
Bah, j'arrête le cacolac.
Moi, Christelle, je continue.
Moi, ouais, ça. Je bois cacolac, c'est la boisson de notre génération.
C'est bien la boisson de votre génération, merci Denis. Ça s'appelle l'échoppe de la Lune hein, et sa fondatrice espère bien aller chercher la Lune aussi dans d'autres villes de France. Vous savez pour finir qu'il y a des journées de tout. Eh bien ce 25 mars, c'est la journée internationale de la gaufre. Ça n'a pas échappé à la Fédération française de rugby qui a tweeté une gaufre et un drapeau France Rugby avec une tour Eiffel en fond. En fait, c'est une référence à la polémique autour des contaminations au sein du 15 de France. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, puisque les joueurs avaient été aperçus en train de déguster des gaufres à Rome, alors qu'en principe ils étaient sous bulle sanitaire.
C'est nous la journée de la gaufre. Une journée de tout et OUX. J'avais peur, c'est pour ça que je me suis dit.
Mais ça, c'est tous les jours.
C'est tous les jours, la journée.
TOUS.
Bon, les écoles, vous en avez parlé. Une chose, dehors en citoyen, mais attention, pas plus de 6. C'est quasiment inapplicable, nous sommes d'accord, ça va être difficile. Je précise que les animaux de compagnie ne sont pas concernés par cette mesure. On a le droit de sortir à 6 et son chien. Mais en revanche, il n'y aura rien de changé pour Pâques. Il y aura, toutes les restrictions seront en place. Et les catholiques de France ne sont pas contents. Parce que ce qu'on appelle la veillée pascale, dans la nuit du samedi au dimanche, il n'y aura pas de veillée pascale cette année. Et les catholiques de France, on les entendra peut-être entre 14h, entre 13h et 14h30, ils réagissent fortement là-dessus. La veillée pascale aura lieu à 6h du matin le dimanche matin.
C'est pas tout à fait
c'est
ça.
Une veillée,
c'est le réveil,
pas
6h.
C'est le réveil pascal. Voilà, ça sera le réveil pascal.
La météo, Peggy Broche, 22 degrés à Nîmes. Oui. Faites-nous rêver.
21 à Montpellier, 20 degrés à Marseille, 19 à Grenoble, 18 à Toulon. Et oui, c'est vrai que près de la Méditerranée, c'est le bonheur. Les températures sont très douces, le soleil est bien généreux, en remontant jusqu'aux Alpes d'ailleurs, ce qui n'est pas le cas partout, parce que même si on retrouvera un petit peu plus d'éclaircies que ce matin entre la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le centre, il y aura encore beaucoup de nuages. Ça restera très nuageux également avec quelques gouttes sur le Grand Est, un ciel variable mais plus lumineux sur le Nord-Ouest entre les Pays de la Loire, le Nord-Pas-de-Calais, mais une nouvelle perturbation arrive sur le nord de la Bretagne et le Cotentin et du coup elle donne un ciel bien chargé avec des petites pluies. Et pour le reste des températures, 12 degrés à Brest, 14 à Caen, Paris, Lille et Limoges, 16 degrés à Bordeaux et Toulouse, 17 à Strasbourg. Les températures sont en baisse, mais elles restent tout de même au-dessus des normales, 1 à 3 degrés au-dessus.
Donc si j'ai bien compris, demain encore des nuages.
Oui, exactement, avec de la pluie et du vent sur le nord-ouest entre la Normandie et les Pays de la Loire. Sur le reste de la moitié nord, pas mal de grisailles le matin, un peu plus éclaircies en journée. Dans la moitié sud, du beau temps le matin, mais ça ne va pas durer puisque dans le sud-ouest, entre l'Aquitaine et le centre, là le ciel sera de plus en plus nuageux, avec quelques averses, voire un coup de tonnerre. Tout ça sous des températures minimales qui seront quasi stationnaires, donc pas de gelée. Et des maximales qui vont repartir à la hausse. Cette fois, on sera 3 à 5 degrés au-dessus des normales. 11 à Cherbourg, jusqu'à 21 à Auch, 20 degrés à Agen et Grenoble, 19 à Montélimar, 18 à Strasbourg et 16 à Paris.
Merci Peggy.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
La question du jour, bien sûr, sur RTL. Faut-il fermer les écoles ? Benoît, vous êtes prof de maths. Bonjour.
Bonjour Pascal, ça devient urgent de fermer les écoles, je crois. Ou de trouver une solution alternative à venir dans des bouillons de culture, oui.
Vous allez nous expliquer cela dans une seconde, le rappel des titres avec Christelle.
Le Rhône, la Nièvre et l'Aube devraient faire à leur tour l'objet de restrictions supplémentaires face à l'épidémie. Olivier Véran, le ministre de la Santé, tiendra une conférence de presse tout à l'heure à 18h. Dans les Hauts-de-France, les hospitalisations n'ont jamais atteint un tel niveau depuis le début de la pandémie. Quant au vaccin AstraZeneca, la Haute Autorité de Santé affirme que les moins de 55 ans qui ont déjà reçu une première dose ne doivent pas s'inquiéter sur la deuxième, même si la vaccination auprès de cette population a été interrompue la semaine dernière. Le Conseil européen de Bruxelles sera, lui, en grande partie consacré au raté de la vaccination cet après-midi. Il va falloir changer de stratégie. Cette fois, c'est parti. Le relais de la flamme olympique a été lancé ce matin sans public dans le département de Fukushima au nord-est du Japon. La torche métallique d'or rose va se promener dans tout le pays.
Les auditeurs ont la parole